Chapitre 4. Le Bénarès atteignit la bordure le lendemain peu après midi. L'une des mantas était morte dans son harnais à 20 kilomètres à peine de notre destination. Abétic la laissa s'en aller avec le courant. L'autre résista jusqu'à ce qu'il fût amarré au quai, puis roula sur le côté, totalement épuisé, ses ouïes laissant passer un mince filet de bulles d'air. Bétic la relâcha aussi, en expliquant qu'elle avait une faible chance de survie si elle se laissait porter quelque temps par le courant. Les pèlerins étaient debout depuis l'aube pour contempler le paysage qui défilait devant eux. Ils échangeaient peu de paroles. Ils ne trouvaient rien à ajouter au récit de Martin Silenus. Le poète ne paraissait pas s'en soucier. Il continuait de boire du vin au petit déjeuner et de chanter des chansons obscènes pour saluer le lever du soleil. Le fleuve s'était considérablement élargi depuis la veille. Il formait maintenant un ruban d'autoroute de 2 kilomètres de large qui s'enfonçait, gris-bleu, à travers les basses collines vertes du sud de la mer des Hautes Herbes. Il n'y avait pas d'arbres si près de l'océan, et les tons roux et chatoyants des buissons de la crinière s'étaient progressivement éclaircis pour se rapprocher du vert vif des herbes hautes de 2 mètres qui tapissaient les plaines du nord. Toute la matinée, les collines n'avaient cessé de s'aplatir pour ne plus former que des talus herbeux bordant le fleuve de chaque côté. Une bande sombre, presque indiscernable, flottait juste au-dessus de l'horizon, au nord et à l'est, et les pèlerins qui avaient déjà vécu sur des mondes océaniques comprirent que la mer n'était plus très loin, même si celle-ci n'était formée que de milliards d'hectares de hautes herbes. La bordure n'avait jamais été un lieu très fréquenté. Aujourd'hui, elle était totalement déserte. La 20aine de bâtisses alignées de chaque côté de la route qui partait du quai offrait un spectacle d'abandon et de désolation. Certains indices pouvaient laisser supposer que la population avait fui à peine quelques semaines plus tôt. Le repos du pèlerin, une vieille taverne vieille de 3 siècles, perché sur une colline juste en dessous de la crête, avait entièrement brûlé. Abétic les accompagna jusqu'au sommet du talus. « Que comptez-vous faire à présent ?» lui demanda le colonel Cassade. « D'après les termes du contrat de servage qui nous lie au temple, nous sommes libres après ce voyage, » lui répondit Bétic. « Nous vous laissons le Bénarès pour effectuer le voyage de retour. En ce qui nous concerne, nous redescendrons le fleuve avec le radeau, puis nous continuerons notre route. » « Vous vous ferez évacuer avec les autres réfugiés ?» demanda Brown Lamia. « Non, » répliqua Bétic en souriant. « Nous avons nos propres objectifs et nos propres pèlerinages sur Hyperion. » Le groupe avait atteint la crête arrondie du talus. Vu d'en haut, le Bénarès semblait bien petit, amarré à son ponton croulant. Le fleuve coulait dans les lointains bleutés du sud-ouest, au-delà de la ville, puis obliquait vers l'ouest, rétrécissant son cours à l'approche des infranchissables cataractes situées à 12 kilomètres en amont de la bordure. Au nord et à l'est s'étendait la mer des Hautes Herbes. « Mon Dieu !» murmura Lamia. L'impression qu'ils avaient était de se trouver sur la dernière colline avant la fin de la création. Au-dessous d'eux, une succession de quais, de pontons et d'entrepôts marquait la limite de la bordure et le commencement de la mer des Hautes Herbes. À perte de vue, il n'y avait que l'herbe qui ondoyait sensuellement sous la brise légère et qui semblait venir lécher la base de l'escarpement. Cet océan végétal paraissait infini et ininterrompu. De hauteur apparemment uniforme, il se prolongeait jusqu'aux 4 horizons. Rien n'indiquait la présence des sommets enneigés de la chaîne Bridée qui se trouvait, il le savait, à 800 kilomètres de là, au nord-est. L'illusion de contempler une vaste mer émeraude était presque parfaite, jusqu'au frémissement des tiges agitées par le vent qui ressemblaient à des moutons au large. « C'est merveilleux !» s'extasia Lamia qui se trouvait pour la première fois devant un tel spectacle. « C'est surtout au lever et au coucher du soleil qu'il faut le voir. » lui dit le consul. Fascinant, murmura Sol Weintraub. Il souleva l'enfant pour qu'elle puisse admirer aussi. Elle gigota de plaisir et se concentra dans la contemplation de ses petits doigts potelés. Un écosystème parfaitement bien conservé, fit Het Mastin d'un ton approbateur. Le muir serait satisfait.
Merde !
S'exclama Martin Silenus. Tous les regards se tournèrent vers lui.
Il devrait y avoir ici un de ces putains de chariots avant !
Fit le poète. Les quatre hommes qui l'entouraient, ainsi que la femme et l'androïde, se tournèrent vers le quai abandonné, puis vers la plaine vide.
Il a du retard, c'est tout,
suggéra le consul. Martin Silenus éclata d'un rire rauque.
Dites plutôt qu'il est reparti. Nous avions rendez-vous hier.
Le colonel Cassade prit ses jumelles à amplification électronique et balaya l'horizon en disant
« À mon avis, il est peu probable qu'il soit reparti sans nous. Ce sont les prêtres du temple Grichtek qui devaient nous l'envoyer. Ils ont intérêt à ce que nous fassions ce pèlerinage. »
« Nous pouvons le faire à pied ?»
proposa Lennart Hoyt. Il était plus pâle que jamais, visiblement dans un état de faiblesse avancée, sous l'empire de la douleur ou de la drogue, ou encore des deux à la fois. Il était à peine en état de se tenir debout, et encore moins de marcher.
« Pas question, » fit Cassad. « Cela représente plusieurs centaines de kilomètres, et ces herbes sont plus hautes que nous. »
« Nous avons des boussoles, »
insista le prêtre.
« Les boussoles ne servent à rien sur Hyperion, »
fit Cassad, les jumelles toujours braquées sur un point de l'horizon.
« Un indicateur de direction, alors ?»«
Nous avons un radiogoniomètre, c'est vrai, »
lui expliqua le consul. « Mais ce n'est pas là le problème.
L'herbe est coupante. Au bout de 500 mètres, nous serions en sang. »«
Vous oubliez les serpents, »
dit Cassad en abaissant ses jumelles.
« C'est un écosystème bien conservé, c'est vrai. Mais cela n'a rien à voir avec un jardin d'agrément. »
Le père Hoyt soupira et se laissa tomber sur l'herbe rase de la crête. Il y avait presque du soulagement dans sa voix lorsqu'il murmura
« D'accord. Il ne nous reste plus qu'à rebrousser chemin dans ce cas. »
Abétix s'avança. « L'équipage vous attendra volontiers pour vous reconduire à Kitz avec le Bénarès si le chariot avant ne vient pas, » dit-il.
« Inutile, » répliqua le consul. « Prenez le radeau et partez comme prévu. » « Pas si vite !»
s'écria Martin Silenus.
« Je ne me souviens pas qu'on vous ait élu dictateur, amigo. Si ce foutu chariot ne se montre pas, il faudra bien trouver un autre moyen de transport. Nous devons absolument arriver là-bas. »
Le consul fit volte-face pour aboyer.
« Quel autre moyen de transport ? Un bateau ? Il nous faudrait au moins 2 semaines pour remonter la crinière et contourner la côte nord jusqu'à Otto ou l'un des autres points de rassemblement. De toute manière, il faudrait qu'un bateau soit disponible. Il est probable que tout ce qui est en état de naviguer a été réquisitionné pour être intégré au dispositif d'évacuation.
Un dirigeable, peut-être,
grogna le poète. Brown Lamia éclata de rire.
C'est vrai qu'il en passe sans arrêt depuis 2 jours que nous remontons le fleuve.
Martin Silenus se tourna rageusement vers elle, le poing fermé, comme s'il voulait la frapper. Puis il sourit.
Très bien, ma petite dame. Qu'est-ce qu'on fait alors? Peut-être qu'un sacrifice humain au serpent des hautes herbes nous attirait les bonnes grâces du dieu des transports?
Elle lui jeta un regard arctique. Une auto-immolation par le feu serait tout à fait dans vos cordes, mon garçon, dit-elle. Le colonel Cassade s'interposa. D'une voix de commandement, il lança
« Ça suffit comme ça, vous deux. Le consul a raison. Le mieux est de rester ici jusqu'à ce que le chariot arrive. Ashmastine et Ashlamia allaient superviser le déchargement de nos affaires avec Abétik. Pendant ce temps, le père Hoyt et Ash Silenus iront chercher du bois pour faire un grand feu.
Un grand feu? Et pourquoi?
Demanda le prêtre. Il trouvait qu'il faisait assez chaud comme ça sur la colline.
Quand la nuit tombera, il faut que le chariot avant puisse nous repérer facilement, lui expliqua Cassad. Tout le monde à son poste, maintenant.
En silence, le groupe contemplait le radeau à moteur qui descendait lentement le fleuve dans le crépuscule. Malgré la distance, le consul distinguait la peau bleue des membres de l'équipage. Le long du quai, le Bénarès semblait vieux et abandonné à l'image de la cité déserte. Lorsque le radeau disparut à l'horizon, le groupe se tourna vers la mer des hautes herbes. Les ombres des berges du fleuve se profilaient sur ce que le consul ne pouvait s'empêcher d'appeler mentalement des vagues et de la houle. Au large, l'océan d'herbe semblait changer de couleur et miroitait d'un éclat d'aigue marine avant de s'assombrir, comme pour indiquer la présence de grands fonds. Le ciel lapis se fondit en un crépuscule d'or et de pourpre, illuminant la crête et donnant des reflets liquides à la peau des pèlerins. Les seuls bruits que l'on entendait étaient les murmures du vent dans les herbes.
« C'est un sacré foutu tas de bagages que nous avons là, pour des gens qui ne font qu'un aller simple !»
fit remarquer Martin Silenus. Ils n'avaient pas tort, se disait le consul. Leurs affaires formaient une belle petite montagne sur le talus herbeux.
« Quelque part au milieu de tout ça, » déclara Etmastine d'une voix tranquille, « nous attend peut-être notre salut. »«
Que voulez-vous dire ?» demanda Brown Lamia.
« Le salut, c'est possible !»
fit Martin Silenus en s'étendant sur l'herbe, les mains croisées sous la tête pour contempler le ciel.
« Mais avez-vous pensé à vous munir d'un slip anti-gritch ? Vous pourriez en avoir besoin. »
Le Templier secoua lentement la tête. Le crépuscule maintenait son visage dans l'ombre sous le capuchon de son vêtement.
« Il est inutile de nous leurrer ou de minimiser les raisons qui amènent ici chacun d'entre nous, » dit-il. Il est temps d'admettre que nous avons tous apporté dans ce pèlerinage quelque chose de particulier avec quoi nous espérons, lorsque le moment sera venu d'affronter le Seigneur de la douleur, changer le cours inévitable des événements.
Le poète se mit à rire.
Dire que je n'ai même pas apporté ma putain de pâte de lapin porte-bonheur. Oh oh oh.
Le capuchon du Templier s'inclina légèrement en avant.
« Vous avez votre manuscrit, peut-être ?»
Le poète ne répondit pas. Etmastine fit passer son regard invisible sur son voisin de gauche.
« Et vous, colonel, qu'avez-vous dans ces grosses malles qui portent votre nom ? Des armes ?»
Cassade le regarda sans répondre.
« Évidemment, » fit Etmastine, « il serait ridicule d'aller à la chasse sans être armé.
Et moi ?»
demanda Brown Lamia en croisant les bras.
« Savez-vous quelle arme secrète je transporte clandestinement ?»«
Nous n'avons pas encore eu l'honneur d'entendre votre récit, H. Lamia, »
fit remarquer le Templier de sa voix posée aux accents étranges.
« Il serait prématuré de vouloir spéculer là-dessus. »«
Et le consul ?»
demanda Lamia.
Là, il me semble qu'elle est tout à fait évidente, l'arme que notre ami diplomate tient en réserve.
Le consul s'arracha à la contemplation du coucher de soleil.
« Je n'ai dans mes bagages que quelques vêtements et deux livres à lire, » dit-il, sincère.
« Oui, » soupira le Templier. « Par contre, c'est un bien beau vaisseau que vous avez laissé derrière vous. »
Martin Silenus bondit sur ses pieds en entendant ces mots.
« Ce vaisseau de merde !»
s'écria-t-il.
« Je suis sûr que vous pouvez l'appeler. Sortez votre putain de sifflet magique, j'en ai marre de poireauter ici !»
Le consul arracha un brin d'herbe et le fendit méthodiquement en long. Au bout d'une minute, il déclara
« Même s'il était en mon pouvoir de le faire venir ici, et vous avez entendu comme moi, Abétic, dire que les SATCOM et les stations de répéteurs étaient hors service, nous ne pourrions absolument pas nous poser au nord de la chaîne bridée. Cela a toujours inévitablement tourné au désastre, même avant que le Gritch commence à écumer la région située au sud des montagnes.
« D'accord !»
fit Silenus en agitant nerveusement les bras.
« Mais nous pourrions au moins quitter ce putain de gazon. Qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler ?»«
Nous en reparlerons demain. Si le chariot avant n'est toujours pas là, nous envisagerons des solutions de rechange.
Allez vous faire foutre avec vous !»
Mais Silenus fut coupé par Cassade, qui fit un pas en avant, en lui tournant le dos, ce qui eut pour effet de le mettre hors du cercle.
« Etmastine, » demanda le colonel, « ne nous direz-vous pas quel est votre secret ?»
Les derniers feux du couchant permettaient à peine de distinguer le sourire qui flottait sur les lèvres fines du Templier. Il désigna la montagne de bagages.
Comme vous avez pu le constater, la malle qui m'accompagne est la plus lourde et la plus mystérieuse de toutes.
C'est un cube de Mobius,
affirma le père Hoyt.
J'ai vu transporter ainsi des artefacts anciens.
Ou des bombes à fusion, suggéra Cassade.
Etmastine secoua la tête.
Rien d'aussi brutal,
leur dit-il.
N'allez-vous pas nous révéler votre secret ?
Demanda Lamia.
Lorsque viendra mon tour de parler ?
Ce n'est pas votre tour ? Demanda le consul. Nous pourrions écouter le récit suivant en attendant.
Sol Weintraub se racla la gorge.
C'est moi qui ai le numéro 4,
dit-il en leur montrant son morceau de papier.
Mais je cède volontiers la place à la voix de l'arbre authentique,
si tel est son désir. Il souleva Rachel pour en faire passer le poids d'une épaule à l'autre, tout en lui tapotant affectueusement le derrière.
Nous avons tout le temps,
fit Etmastine en secouant la tête.
Je voulais seulement vous faire comprendre qu'il y a toujours de l'espoir au plus profond du plus sombre désespoir. Nous avons beaucoup appris jusqu'à présent en écoutant les récits qui ont été faits. Néanmoins, chacun de nous a le germe d'une promesse enfouie en lui, encore plus loin que nous ne voulons l'admettre.
Je ne vois vraiment pas en quoi.
Le père Hoyt fut brutalement interrompu par le cri de Martin Silenus.
Le voilà ! Il a quand même fini par arriver, ce putain de chariot avant !
Il fallut encore 20 minutes pour que le chariot s'amarre à l'un des pontons. Il venait du nord et ses voiles formaient des carrés blancs contre la plaine obscure vidée de toutes ses couleurs. Les dernières lueurs du couchant s'étaient éteintes lorsque le gros vaisseau, ayant décrit un large cercle pour se présenter dans l'alignement du talus, ferla ses voiles et s'arrêta progressivement de rouler. Le consul fut impressionné par ce spectacle. L'engin était en bois, entièrement assemblé à la main et d'une taille gigantesque. Sa ligne ventrue évoquait celle d'un galion de mer tout droit issu de l'histoire de l'ancienne terre. Son unique roue énorme, placée au centre, devait normalement rester invisible au milieu des herbes de 2 mètres, mais le consul aperçut la partie inférieure de la coque lorsqu'il commença à porter les bagages sur le quai. Il y avait bien 6 ou 7 mètres entre le niveau du sol et le plat-bord, et environ 5 fois cette distance jusqu'au sommet du grand mât. De l'endroit où il se trouvait, haletant sous la charge, il entendait le claquement des bannières tout en haut, ainsi qu'un bourdonnement continu, presque subsonique, sans doute produit par le volant d'inertie intérieur du vaisseau ou par ses gyroscopes massifs. Une passerelle sortit de la partie supérieure de la coque et s'inclina jusqu'au quai. Le père Hoyt et Brown Lamia durent reculer précipitamment pour ne pas se faire écraser. Le chariot avant était beaucoup moins bien éclairé que le Bénarès. Ses seules sources d'illumination semblaient consister en une série de lanternes suspendues à ses vergues. Aucun équipage ne s'était manifesté durant l'approche du vaisseau, et il n'y avait pas la moindre silhouette en vue sur le pont.
« Hola !»
appela le consul au pied de la passerelle. Personne ne lui répondit.
« Attendez-moi ici un instant, voulez-vous ? »
fit Cassad. En 5 enjambées, il se retrouva en haut de la passerelle inclinée. Tandis que les autres le regardaient sans rien dire, il s'immobilisa un instant, toucha sa ceinture à l'endroit où était glissé un petit bâton de la mort, puis disparut à l'intérieur du vaisseau. Quelques minutes plus tard, une lumière s'alluma derrière les larges baies de la poupe, projetant des ombres jaunes trapézoïdales sur l'herbe en contrebas.
« Vous pouvez monter !»
fit Cassad du haut de la rampe.
« Il n'y a personne à bord !»
Ils durent faire plusieurs voyages pour les bagages. Le consul aida Etmastine à porter la lourde malle de Mobius et crut sentir dans ses doigts une vibration légère mais soutenue.
« Où est passé ce bordel de dieu d'équipage ?»
demanda Martin Silenus quand ils se rassemblèrent sur le pont principal. Ils avaient fait, en file indienne, le tour des coursives étroites et des cabines et descendu des escaliers qui étaient plutôt de simples échelles. Les logements prévus pour les passagers étaient à peine plus spacieux que les couchettes qu'ils contenaient. Seule la cabine de poupe, celle du capitaine, si toutefois l'on pouvait se fier aux apparences, était à peu près comparable en volume et en confort aux installations du Bénarès.
« Il est automatique de toute évidence, »
fit Cassad. L'officier de la force leur montra des drisses qui disparaissaient dans des rainures du pont, des manipulateurs presque invisibles parmi les espars et le gréement, ainsi que tout un mécanisme subtil que l'on devinait à mi-hauteur du mât d'Artimon gréé d'une voile latine.
Je n'ai vu aucun poste de commande, fit observer Brown Lamia. Pas la moindre disquette, ni le plus petit noyaucé.
Elle sortit un persoc d'une de ses poches et essaya de se connecter à une interface standard sur les fréquences de données, de communication, puis biomédicale. Elle n'obtint aucune réponse du vaisseau.
« Ces engins ont toujours eu un minimum d'équipage, » murmura le consul. « Généralement des initiés du temple chargés d'accompagner les pèlerins dans les montagnes. »«
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas là, » déclara Hoyt. « Mais nous pouvons supposer qu'il y a quelqu'un à la station du téléphérique ou à la forteresse de Chronos qui nous a envoyé ce chariot avant. »
À moins que tout le monde ne soit mort et qu'il ne soit venu automatiquement, fit Lamia.
Elle regarda par-dessus son épaule la toile et le gréement qui craquaient au vent.
C'est vraiment lugubre d'être coupé de tout et de tout le monde dans des endroits pareils, reprit-elle. Je ne sais pas comment les coloniaux peuvent supporter cette vie.
Martin Silenus s'approcha alors du groupe et s'adossa au bastingage. Il but une longue gorgée à la bouteille verte qu'il tenait à la main, puis se mit à déclamer
« Où est le poète? Montrez-le-moi, mes muses, que je le reconnaisse. C'est l'égal de tout homme, fût-il roi ou mendiant ou autre créature merveilleuse entre le singe et Platon. C'est l'homme qui, avec un oiseau, roitelet ou aigle, trouve le chemin de tous ses instincts. S'il entend le rugissement du lion, il sait traduire les sons issus de cette gorge puissante. Pour lui, le feulement du tigre a un sens et sonne à ses oreilles comme sa langue natale.
« Où avez-vous déniché cette bouteille ?» lui demanda Cassad.
Martin Silenus sourit. Ses petits yeux brillaient à la lueur de la lanterne.
« La cambuse en est amplement pourvue, » dit-il. « Il y a même un bar. « Je me suis permis de le déclarer ouvert. »«
Nous devrions peut-être nous restaurer, » fit le consul. Il ne souhaitait, pour sa part, rien d'autre qu'un verre de vin, mais il y avait bien 10 heures qu'il n'avait rien mangé. Ils entendirent soudain un grand bruit à tribord et se retournèrent comme un seul homme pour voir la passerelle rentrer dans la coque. Ils firent de nouveau volte-face et levèrent la tête lorsque la voile se déploya sous les vergues et que les drisses se tendirent. Quelque part, un volant d'inertie vibra dans le registre ultrasonique. Les voiles se gonflèrent, le pont s'inclina légèrement et le chariot s'éloigna du quai pour s'enfoncer dans les ténèbres. Les seuls sons que l'on entendait étaient le claquement des voiles et le grincement des cordages, le grondement lointain de la roue et le frottement des herbes sous la coque. Les 6 pèlerins regardèrent s'éloigner derrière eux l'ombre de la crête. Le bûcher qu'ils avaient préparé pour signaler leur position et qu'ils n'avaient jamais allumé refléta quelques instants la pâle lueur des étoiles sur ses branches faiblement argentées, puis il n'y eut plus que le ciel et la nuit pour servir de fond aux oscillations rythmées des feux émis par les lanternes de bord.
« Je descends voir s'il y a quelque chose à grignoter, »
leur dit le consul.
Les autres s'attardèrent quelques instants sur le pont qui trépidait légèrement, admirant le crépuscule qui commençait à s'installer. La mer des hautes herbes n'était visible que comme un endroit où finissaient les étoiles et où commençaient les ténèbres. Cassad sortit une lampe torche pour illuminer une partie du gréement. Les cordages se tendaient, tirés par des mains invisibles, tandis qu'il examinait tous les recoins de la proue à la poupe. Les autres le regardaient faire en silence. Quand il éteignit la torche, l'obscurité parut soudain moins oppressante et les étoiles un peu plus brillantes. Une riche odeur de fertilité, qui évoquait davantage une ferme au printemps qu'un océan, leur arriva, apportée par une brise qui avait balayé 1000 kilomètres de prairies. Peu de temps après, le consul les appela et ils descendirent manger. La salle à manger était minuscule. Il n'y avait pas de grande table commune. Ils durent utiliser la cabine du capitaine à l'arrière, en réunissant 3 mâles bout à bout pour former une table de fortune. 4 lanternes accrochées aux poutres basses servirent à éclairer l'endroit. Une brise pénétra dans la cabine lorsque Het Mastin ouvrit l'une des larges baies situées au-dessus du lit. Le consul posa des assiettes pleines de sandwichs sur la plus grosse malle, puis revint quelques instants plus tard avec de gros bols blancs et un thermos. Il servit le café à ses compagnons pendant qu'ils mangeaient.
« C'est excellent !» lui dit Fedman Kassad. « Où avez-vous trouvé tout ça ?»«
Le frigo est très bien pourvu. Et il y a encore une chambre froide dans la réserve de poupe. »«
Électrique ?»
demanda Mastin. « Non, double isolation seulement. »
Martin Silenus renifla un pot, trouva un couteau dans l'une des assiettes et ajouta quelques gros morceaux de réfort à son sandwich. Il se mit à manger, les yeux brillants de larmes.
« Combien de temps dure généralement ce genre de traversée ?» demanda Lamia au consul.
Il releva la tête, s'arrachant à la contemplation du cercle que faisait le café noir sur le bord de sa tasse.
« Pardonnez-moi, » fit-il. « Vous disiez ?»«
La traversée de la mer des Hautes-Herbes, elle dure combien de temps ?»«
Une nuit et la moitié d'une journée pour atteindre les montagnes, » répondit le consul. « À condition d'avoir le vent pour nous. »
« Et ensuite, combien de temps pour franchir les montagnes ?»
demanda le père Hoyt.
« Moins d'un jour. »«
Si le téléphérique est en état de marche, » précisa Kassad.
Le consul porta le café brûlant à ses lèvres et fit la grimace.
« Espérons qu'il le sera, » dit-il. « Sinon... »«
Sinon quoi ?»
demanda Lamia.
« Sinon, »
reprit Kassad en mettant les mains sur les hanches pour marcher jusqu'à la fenêtre ouverte,
« nous serons bloqués à 600 kilomètres des tombeaux du temps et à un millier de kilomètres des grandes villes du Sud. »
Le consul secoua la tête.
« Impossible, » dit-il. « Les prêtres du temple, ou qui que ce soit d'autre qui orchestre ce pèlerinage, ont veillé à ce que nous arrivions jusqu'ici. Ils feront en sorte que nous puissions aller jusqu'au bout. »
Brown Lamia croisa les bras en fronçant les sourcils.
« En qualité de quoi ? De victime promise au sacrifice ?»
Martin Silenus fit entendre un rire bruyant et sortit sa bouteille.
« Quels sont ceux-ci qui viennent au sacrifice ? À quel hôtel verdoyant, ô prêtre mystérieux, mènes-tu cette génisse qui mugit aux cieux ? Ces flancs soyeux tout parés de guirlandes ? Quelle ville, au bord d'un fleuve ou de la mer, ou bâtie sur la montagne, autour de son acropole paisible, s'est vidée de ce peuple en ce matin recueilli ? Tes rues, petite ville, pour toujours resteront silencieuses, et pas une âme, pour dire pourquoi tu es déserte, ne reviendra jamais. »
Brown Lamia glissa la main sous sa tunique et en sortit un couteau laser, pas plus large que son petit doigt, qu'elle pointa sur la tête du poète.
« Misérable avorton de merde ! Un mot de plus de votre part et je jure que je vous découpe sur place !»
Le silence se fit soudain, absolu à l'exception des trépidations étouffées du vaisseau. Le consul se rapprocha discrètement de Martin Silenus, tandis que le colonel Kassad faisait deux pas vers Brown Lamia par derrière. Le poète but une longue gorgée et sourit à la femme aux cheveux bruns. Les lèvres mouillées, il murmura
« Construisez votre navire de la mort, oh oui, construisez-le !»
Les doigts de Lamia étaient exsangues au contact du tube laser. Le consul s'était encore rapproché de Silenus sans trop savoir ce qu'il allait pouvoir faire. Il imaginait la lueur aveuglante du laser en train de lui dévorer les yeux. Pendant ce temps, Kassad se penchait vers Lamia telle une ombre géante prête à bondir.
« Madame, »
fit Sol Weintraub de la couchette où il était assis contre la paroi opposée.
« Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a un bébé parmi nous. »
Lamia tourna vivement la tête à droite. Weintraub avait retiré un tiroir assez profond d'un meuble de rangement et l'avait posé sur la couchette pour en faire un berceau. Il était allé faire la toilette de l'enfant et était revenu juste avant la tirade du poète. Il posa délicatement l'enfant dans son nid capitonné.
« Excusez-moi, » fit Lamia en abaissant le laser miniature. « C'est qu'il me porte tellement sur les nerfs !»
Weintraub hocha la tête en remuant doucement le tiroir pour bercer l'enfant. Le mouvement du chariot, associé au grondement sourd de la roue, semblait avoir déjà endormi Rachel.
« Nous sommes tous sur les nerfs et physiquement épuisés, » leur dit Weintraub.
« Il serait peut-être plus raisonnable que chacun se trouve un endroit où dormir et se retire pour la nuit. »
Braun Lamia soupira et rangea son arme.
« Je ne trouverai jamais le sommeil, » dit-elle. « Il se passe des choses trop étranges. »
Les autres approuvèrent en hochant la tête. Martin Silenus s'était installé sur le large rebord d'une baie. Il allongea les jambes contre la vitre, but une nouvelle gorgée et demanda à Weintraub
« Racontez-nous donc votre histoire, mon vieux. »
« Oui. »
Fit à son tour le père Hoyt, d'une pâleur cadavérique, mais les yeux fiévreux d'excitation.
« Racontez-nous. Il faut que nous en sachions le plus possible avant d'arriver. Nous aurons ainsi un peu de temps pour réfléchir. »
Weintraub passa la main sur son crâne chauve. « Mon récit n'aura rien de très palpitant, » dit-il. « C'est la première fois que je viens sur Hyperion. Vous ne m'entendrez parler ni de monstres ni d'actes d'héroïsme. Pour celui qui va vous conter cette histoire, la plus grande aventure épique, c'est de s'adresser à sa classe quand il a oublié ses notes.
« Tant mieux !» fit Martin Silenus. « Nous avons tous besoin d'un bon soporifique. »
Seul Weintraub soupira, rajusta ses lunettes et hocha la tête. Il y avait quelques filets noirs dans sa barbe, mais la plus grande partie était grise. Il baissa la lumière de la lanterne au-dessus du lit où était le bébé et alla s'asseoir au centre de la grande cabine. Le consul éteignit les autres lampes et servit du café à ceux qui en voulaient encore. La voix de Sol Weintraub s'éleva, lente et précise dans son phrasé et dans le choix de ses mots. Avant longtemps, tout le monde fut sous le charme de sa cadence, mêlé au rythme sourd des mouvements du chariot à vent qui progressait imperturbablement vers le nord.